Bonjour Gérald Dehan.
Eh bien bonjour.
Vous êtes
Hélène FM.
Vous êtes candidat aux législatives sur la troisième circonscription de la Charente-Maritime. Vous représentez la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors comme les autres candidats, même si vous bénéficiez d'une notoriété nationale, pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?
Eh bien oui, donc je m'appelle Gérald Dehan. Mes racines sont entre la Charente et la Charente-Maritime où mes parents étaient commerçants et où j'ai choisi de revenir en vivre en famille au moment du confinement. Voilà. Et je suis artiste, comédien. C'est plus une passion d'ailleurs qu'un métier à la base. Dans mes imitations, je n'ai jamais ménagé le monde politique et médiatique. Et cet engagement ne s'ancre pas seulement sur scène, mais à la radio ou à la télévision. Donc voilà, fidèle à mes convictions, j'ai adhéré d'abord au Parti Socialiste. Et puis ensuite, j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, où j'ai participé aux travaux sur la démocratie en termes de programme. Il y a de ça pas mal d'années, parce que ça passe vite, en fait. Et puis, si j'étais élu, eh bien, mes principales préoccupations iraient vers les personnes âgées, la gestion de l'eau, les plans de secours, les plans de secours en cas de catastrophe naturelle, les transports publics, le logement, le handicap, la production des consommations circuits courts. Voilà. Et je souhaite, en fait, rejoindre la commission culture de l'Assemblée nationale, parce que pour moi, c'est un domaine essentiel, contrairement à ce que nous a fait croire pendant le Covid. C'est des engagements qui sont sérieux et donc que je prends avec sérieux.
Alors, c'est la deuxième fois que vous vous présentez à cette élection. La première, c'était en 2017 dans les Hauts-de-Seine. Là, vous arrivez en Charente-Maritime. Vos opposants locaux de gauche parlent d'un parachutage, notamment le sénateur socialiste Michael Vallée, qui soutient Fabrice Barusseau. Il a déclaré avec humour, si ça, c'est pas un grossier parachutage à l'ancienne, c'est bien imité. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?
Un parachutage à 800 mètres de la maison familiale, c'est plus un saut de puce. On va dire. Et puis voilà, mes parents étaient commerçants
à Sainte,
à Saint-Jean-d'Angély, et sur Mata. Quand j'appelle l'imprimeur à Saint-Jean-d'Angély, il me dit « Salut Gérald, comment tu vas ? Comment vont tes parents ?» Voilà, moi j'ai...
Vous le revendiquez, hein, cet ancrage local, hein, parce qu'effectivement, on vous tombe
bien
dessus.
Bien sûr, tout à fait. En fait, pour des raisons administratives liées à la précédente élection départementale, Rémi Catrou était d'abord pressenti pour se présenter aux législatives de cette année sur cette circonscription, et il a dû y renoncer donc. Hein, et cette circonscription revenant à France Insoumise dans les négociations de la NUP.
Vous lui êtes passé devant, hein, Rémi Catrou ?
Pas du tout, parce qu'en fait, c'est Rémi Catrou qui a fait savoir qu'il s'exposait à un très gros problème qui ne pouvait peut-être pas le rendre éligible ensuite. Donc il fallait par sagesse, Rémi Catrou a voulu anticiper et s'est dit, si jamais j'étais frappé d'inéligibilité, on n'aurait plus de candidat. Donc ils ont cherché des solutions et donc ils ont pensé à moi puisque j'étais proche à Cognac. Et
on parle de copinage avec Jean-Luc Mélenchon, pas du tout.
Jean-Luc Mélenchon est un ami, c'est pas un copain. Mais c'est pas la raison pour laquelle je me retrouve ici, puisque je suis ici déjà. Et voilà, il faut noter qu'à Cognac, il y avait déjà un très bon candidat, LFI. La candidature de Ouria Ladjane en tant que suppléante, donc elle n'a soulevé aucune question. Hein, elle est conseillère municipale à Saint-Jean-d'Angély. Elle travaille également à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély. En prévention santé. Et c'est vrai qu'à l'annonce de ma candidature, Fabrice Barusseau a décidé de se maintenir avec son suppléant, plaçant d'ailleurs cet ancien secrétaire fédéral au banc de son parti, en fait.
Vous le déplorez, justement, le maintien de cette candidature et celle de Pierre Dietz, hein, qui fait partie de la gauche.
Chacun a le droit d'être candidat, et c'est tant mieux. Maintenant, c'est certain qu'on l'a vu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les principaux partis de gauche gauche sont réunis, l'union fait la force. Donc voilà, Monsieur Barroso est ancré localement. Je comprends son souhait de se présenter. Pour autant, c'est une élection nationale. On élit des députés pour légiférer sur des problèmes et des solutions à trouver sur l'ensemble du territoire. Donc, si vous voulez, souvent la perception du rôle du député n'est pas forcément très bien. Les gens le comprennent mal. Voilà, Monsieur Barroso a déjà des mandats. Moi, je suis pas un politicien. Je suis une personnalité, certes connue, mais j'ai des engagements. J'ai travaillé sur ce programme-là. L'intérêt, c'est qu'on ait le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, évidemment, c'est déplorable. Je pense que M. Barroso aurait bien voulu l'union, mais derrière lui.
Vous ne craignez pas un éparpillement des voix à gauche au premier
bien
tour?
Oui et non, c'est-à-dire que pour ce que ça représentera, mais je vois bien que on l'a vu que toutes les projections des sièges à l'Assemblée sont très très favorables à l'Union populaire.
Le candidat d'Ivergo, justement, Fabrice Barroso, a réclamé le retrait du soutien de la NUPES à son profit.
Oui.
Après les révélations de Mediapart la semaine dernière à propos des dettes et d'une condamnation en 2019 au Prud'homme, vous êtes prêt à abandonner ?
Jamais de la vie, ça va pas, pourquoi j'abandonnerais ? Je veux dire, lui, il a tenté, dans une démarche totalement improbable, d'usurper une étiquette qu'il refusait jusqu'ici. Et il a profité par opportunisme de la situation. Je pense que ça le disqualifie. Il s'est disqualifié de lui-même aux yeux des électeurs. Voilà. Mais
Même s'il a le soutien de plusieurs ténors de la gauche.
Oui, mais c'est le soutien des électeurs qui est important. Vous savez, le soutien d'élus entre eux, ça intéresse pas les gens. C'est surtout quand on parle de Rousset, qui a déjà eu des problèmes. Enfin bon, voilà. Ça n'intéresse ni les gens ni moi. Surtout quand on se base sur des accusations qui sont erronées.
Alors, vous êtes plusieurs personnalités du showbiz, je ne sais pas si on dit encore showbiz, à vous présenter à cette élection en France, comme Francis Lalanne près de chez nous en Charente ou encore Laurent Baffy à Paris. Comment c'est perçu par le public et surtout les électeurs? Et peut-on facilement passer de l'humour à la politique après avoir longtemps imité et raillé ceux que vous affrontez aujourd'hui?
Quand on est un humoriste et que l'on fait de l'humour politique pendant de nombreuses années ou des canulars téléphoniques à des hommes politiques, on fait rire et en même temps on fait réfléchir. Moi je suis spécifiquement dans un type d'humour engagé. On n'est pas dans les mêmes situations avec les autres candidats que vous venez de citer.
Le député de La Rochelle, Olivier Falorni, s'en souvient encore.
Olivier Falorni s'en souvient et il l'a pris avec humour d'ailleurs. Les gens, quand je discute avec eux, ils me disent ah, on se souvient tous quand vous avez piégé Devedjian et que l'affaire des tableaux de Guéant a été révélée grâce à ça. On se souvient tous lorsque vous avez piégé Nadine Morano et qu'on a compris en fait que la frontière entre les Républicains, ou en tout cas certains des Républicains et le Front National était infime parce qu'elle avait déjà fait une interview dans le journal Minute pour essayer de récupérer les électeurs du Front National. Donc les gens se souviennent de ce que j'ai fait en termes de canuaire. J'en ai fait des rigolos et puis j'en ai fait des rigolos mais qui faisaient réfléchir les gens. Donc c'est à un moment donné aussi quand vos cibles entre guillemets sont plus caricaturales que votre propre imitation, vous vous dites quel éclairage finalement je peux encore apporter. Et alors depuis effectivement les dernières législatives, l'aspect rentrer en action m'a motivé. Voilà, donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice en défendant des convictions qui sont chevillées au corps, j'essaie de le faire.
Depuis les dernières législatives, justement en 2017 dans les Hauts-de-Seine, vous avez progressé justement dans votre parcours politique ?
Alors, en tout cas, j'ai eu l'idée de créer une association qui s'appelle les Hôtels du Cœur pour venir en aide aux sans-abri dans le quartier où j'habitais, notamment à Paris, où la précarité se voit à l'œil nu, dans le 19e. Voilà, il n'y a pas que sur le plan politique, parce que la politique, ce sont des convictions, ce sont des réactions que vous avez par rapport à des situations difficiles que peuvent vivre les autres et ou vous-même. Moi, ma maman a une petite retraite. On s'est battu pour qu'elle puisse être reconnue et avoir une retraite décente, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs. Mais voilà, je suis venu en aide à des gens qui ont tenté de se suicider parce qu'on avait brûlé leur couverture, la police avait brûlé leur couverture et qu'ils ne pouvaient plus vivre dehors. Donc voilà, maintenant on est à nouveau dans un contexte où on peut venir en aide aux gens sur le plan politique. Donc je ne vais pas laisser passer cette occasion.
Gérald Dahan, vous vous présentez donc sur cette troisième circonscription de la Charente-Maritime. Quelles sont vos priorités pour ce territoire ?
Pour mes priorités, elles sont pas seulement pour ce territoire, elles sont pour l'ensemble du pays. Et parce qu'on retrouve en fait malheureusement souvent les mêmes problèmes, à quelques exceptions prêtes, lorsque voilà il y a une géographie particulière. Mais c'est avant tout évidemment le pouvoir d'achat chez nous. On propose le SMIC à 1500 net par mois. Au début c'était 1400, on l'a monté à 1500 parce qu'il est indexé sur l'inflation. On veut bloquer les prix sur les produits de première nécessité et sur le carburant. On veut également voilà venir aussi en aide aux retraités avec une retraite à 60 ans complète avec 40 annuités et sans décote.
Vous le constatez, c'est toutes ces difficultés sur le terrain, vous rencontrez
évidemment,
les gens beaucoup.
Évidemment. Et puis ce qui est important, c'est que les gens sachent bien que nous on est pour la retraite à 60 ans complète sans décote et à 1500 minimum. Pareil pour les aides pour les personnes handicapées. Donc voilà, et puis on est de l'autre côté parce que la politique ça s'imagine en tous les cas sur en toute cohérence. Donc si on permet aux gens de travailler moins longtemps, eh bien il faut d'un autre côté allouer aux étudiants un minimum qu'on a défini à 1063 euros, qui était aussi le minimum vieillesse, de manière à ce que, parce que moi je rencontre des gens qui me disent bah ouais mais si on travaille pas plus longtemps on pourra pas payer les études des gosses, vous voyez, enfin des choses comme ça, et là voilà il faut équilibrer des deux côtés. Donc voilà, tout ça est réfléchi, c'est pas juste des mesures qui sont envoyées comme ça. C'est le programme L'Avenir en Commun de base de la France Insoumise a été travaillé pendant je sais parce que j'ai participé sur la partie démocratie par des rigolos justement, vraiment par des gens qui étaient très très au fait de toutes ces choses-là. Et le programme a été chiffré précisément. Et la NUP, tous les partis réunis, ça représente 650 mesures. C'est pas tombé du ciel comme ça. Voilà.
Et une retraite à 60 ans, c'est possible ?
Bien sûr que c'est possible, une retraite à 60 ans, je vous le dis. Une des idées pour la financer, c'est que les hommes et les femmes gagnent le même salaire, à compétences égales. Et là, vous augmentez les cotisations. Et c'est comme ça que vous pouvez financer la retraite à 60 ans. Donc voilà. Et puis on sait très bien que l'argent, il y en a. Je veux dire, là, on l'a bien vu. 50 ans d'austérité, et tout d'un coup, on ouvre les robinets, on sort 250 milliards pour le quoi qu'il en coûte. Bon, quand c'est nécessaire, quand on veut, on peut. Il suffit juste de mettre l'argent au bon endroit. Et voilà. Et malheureusement, quand on discute avec les gens, on se rend compte que le problème essentiel dans tous les domaines, c'est la financiarisation à outrance. Voilà. Et donc ça, c'est un problème. Il faut mettre l'humain avant le profit, tout simplement.
J'en viens au territoire de cette troisième circonscription. Il y a des problématiques, notamment liées à la ruralité, problématiques de mobilité, problématiques environnementales, gestion de l'eau. Vous serez aux côtés des élus du territoire, justement, pour les soutenir.
J'y suis déjà. J'étais hier à la foire au vin à Beauvais-sur-Matha. J'ai pris le temps de discuter avec les viticulteurs, avec ceux qui sont confrontés aux problèmes de sécheresse, voilà, qui nous disent il faut faire, mais ils sont pas tous ils sont d'accord pour qu'on arrive à faire les choses intelligemment. C'est-à-dire que forcément eux il leur faut du rendement, mais en même temps il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes il faut soutenir. Si on empêche les gens de pomper les nappes phréatiques de l'autre côté, il faut les soutenir financièrement aussi. Voilà,
c'est tout. Vous êtes pour ou contre les bassines pour l'irrigation agricole?
Alors moi je vous le dis tout de suite, c'est pas mon domaine de compétence. Moi je suis très au fait des choses culturelles. Je suis particulièrement intéressé et motivé par tous les aspects démocratiques, avec la révocation des élus qui puissent le RIC, des choses comme ça. Moi je suis pour aussi pour que les gens, les élus ne fassent qu'un mandat, par exemple, vous voyez, par type de mandat, parce que sinon on tombe sur des Barrousseau, des gens comme ça qui ne pensent qu'à leur petite personne, en fait, pas à l'intérêt général. Ils veulent cumuler des mandats, ils veulent professionnaliser la politique. Non, moi je suis donc sur tous ces aspects-là démocratiques, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer et que je ne manquerai pas de proposer, peut-être même des choses qui ne sont pas encore actées dans le programme, mais auxquelles je tiens. Et c'est pour ça que je n'hésite pas sur les réseaux ou partout où je vais à dire ce que moi je proposerai quand je serai à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, comme je viens de vous le dire, de travailler sur le un élu, un mandat, d'œuvrer pour la gratuité des transports en commun. Y a à Dunkerque, ça se fait déjà. Y a plein de villes qui commencent à le faire. Il faut généraliser ça. C'est possible, en fait. Entendons-nous bien, quand je dis transport en commun, je parle évidemment des transports urbains en priorité. Et puis après, on verra aussi. Mais bon, c'est vrai que quand un comique devient un politique, c'est un peu le monde à l'envers, j'ai envie de dire. Parce que on voit bien que les politiques se ridiculisent de plus en plus, et c'est ce qui explique cette abstention de plus en plus forte.
À quelqu'un en particulier, non?
Pardon? Non, c'est généralisé, mais c'est vrai que la Macronie marche sur la tête et sur nos têtes. Donc je démarre en politique, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas savoir faire des promesses que je ne saurais pas tenir. Voilà, je me concentre sur ce que je connais.
Gérald Daran, la campagne se poursuit pour vous. Sous quelle forme et quelles sont les dates de vos événements à venir jusqu'au 10 juin ?
Eh bien, c'est une très bonne question, puisque toutes ces tentatives de déstabiliser ma campagne à travers des articles de presse qui sont et à la fois racoleurs et à la fois mensongers, on perd du temps à répondre à tout ça, c'est fait pour ça uniquement, parce que je ne manquerai pas effectivement d'essayer d'obtenir des droits de réponse avec ces gens-là ou d'entamer des procédures en justice. Mais du coup, voilà, on a dû prendre un temps pour réorganiser notre tournée. J'ai un camping-car, je me balade dans toute la circo, parce que la campagne est courte, mais je peux...
Et la circo est très étendue.
Et voilà, donc je peux vous annoncer que, par exemple, le 7 juin, je serai de 10h à midi à Taillebourg, de 15h à 17h à Saint-Vaise, et de 17h à 19h à Bussac, par exemple.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux électeurs ?
Les électeurs, je leur dis tout simplement qu'il faut le maximum de députés à l'Assemblée nationale NUP. Et donc voilà, il faut, parce que ce sont des gens qui représentent toutes les avancées sociales que nous avons eues dans notre histoire, que ce soit dans des moments importants, les congés payés, le RMI, le RSA, la CMU, tout ça c'est la gauche. Et là, on est particulièrement dans un contexte où l'écologie et les problèmes sociaux sont au cœur de notre avenir à tous et à ceux de nos enfants. Donc, on a déjà eu un quinquennat où on n'était pas content et où les gens sont contraints à voter par défaut ou par dépit. Cette fois pour les législatives, on sait, et c'est pour ça, et eux aussi le savent, nos adversaires politiques, que l'on peut peser à l'Assemblée nationale. Eh bien, si vous votez NUP, c'est moi qui les représente dans cette circonscription, vous allez voter pour des gens qui vraiment ont envie de faire entendre de manière claire et de faire peser la voix de ceux qui souffrent dans une assemblée. Et vu les sondages et les projections, on sait que c'est possible.
Géraldin, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.